allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. C'est un lapin qui prolonge depuis leur naissance le bras droit du fils d'Élodie ou de la fille de Caroline, alors que le lit de Maxime, lui, est habité par un âne, un agneau et un ours. Quant à Anouk, n'imaginez même pas l'emmener à l'école sans son castor, crise garantie. Petit, le préféré de Patrick était un chien bleu porte-pyjama, tandis que le doudou de Gabriel n'était autre qu'un cerf baptisé Coquelicot. Attiré par les grandes étendues blanches, Norian trimballait avec lui un pingouin quand Marie ne s'endormait jamais sans son bibifoque. David, lui, ne jurait que par sa girafe quand Nicolas aimait d'amour vrai son singe chocolat. Quant à moi, c'est pour me consoler de la perte douloureuse de mon chat que j'ai acquis ma dernière peluche, un renard flamboyant d'environ 30 cm confectionné dans un velours orange et blanc particulièrement doux et réconfortant. C'était il y a 2 ans. Qu'ils soient ours, renards, phoques ou pourquoi pas homard ou poulpe, nous gardons presque tous et toutes un souvenir ému de ces premiers compagnons qui, bien qu'inanimés, ont su nous apporter un réconfort à la hauteur de nos peines d'enfants et parfois d'adultes. En langage de grand, on appelle cela un objet transitionnel. Mais d'où vient ce pouvoir réconfortant de la peluche? C'est la question ardue à laquelle s'est confrontée une équipe de chercheurs et chercheuses, biologistes, psychologues, écologues, biostatisticiens ou médiateurs scientifiques. Ils ont mis en place un protocole expérimental inspiré des sciences naturalistes ou de la psychologie cognitive pour dresser le portrait robot du nounours le plus réconfortant de France et tenter de comprendre les mécanismes de cet attachement grâce à une étude participative menée sur près d'un millier de participants. Ils ont récemment publié leur étude dans The Journal of Positive Psychology. Notre invité est médiateur scientifique au service culture scientifique de l'Université de Montpellier. Il coordonne cette étude depuis de nombreuses années. Thierry Brassac, bonjour.
Et bonjour.
Et bienvenue dans Allume la science. Adieu ours, lapin, girafe, votre doudou préféré est à mes côtés pour mener cette interview. Aline Perriot, bonjour.
Bonjour.
En seconde partie d'émission, nous restons dans les rêves d'enfants en vous emmenant au Centre Spatial Universitaire de Montpellier où Pablo Boisseau nous fait découvrir un flatsat. Notre invité de dernière minute cette semaine s'appelle Éric Serva. Nous l'avons déjà reçu pour parler de l'eau et cette fois-ci, le directeur du Centre UNISCO sur l'eau Icy Reward nous parle du hackathon qui se tient à Montpellier les 16 et 17 février prochains. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
Alors Thierry Brassac, en introduction, on a évoqué un terme qui a peut-être titillé l'oreille des auditeurs, c'est le terme d'objet transitionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment ça s'applique à un ours en peluche?
Alors, l'objet transitionnel, c'est un docteur qui s'appelait Monsieur Winnicott, qui a défini ça à l'époque où en fait on faisait pas trop attention à l'importance justement du soin, du care comme on dit, aux enfants, et qui a théorisé un petit peu sur l'importance d'avoir quelque chose qui permette de supporter l'absence de la maman ou du papa. On parle beaucoup de la maman, mais du papa aussi en fait. Et c'est ce qui a fait en sorte que effectivement les gens se sont dit, bah oui, c'est quand même quelque chose auquel il faut faire attention. C'est quelque chose qui a des vertus complètement incroyablement efficaces, en fait, qui font du bien, qui réconfortent avec un petit bout de tissu. Donc c'est quand même plutôt pas mal comme truc, quoi.
On parle d'ours en plus, est-ce que c'est obligatoirement un ours? Est-ce que ça peut être, comme je l'ai dit, une girafe, un dauphin?
Alors, c'est toutes les peluches du monde que vous voulez et que vous préférez, c'est vous qui choisissez. Mais en fait, c'est vrai que nous, dans le cadre de cette étude, on s'est concentré sur, pour plusieurs raisons, en fait, sur l'ours en peluche, qui a été la première peluche, en fait, quand même.
Et alors, cette idée d'une étude scientifique sur les peluches, elle vient d'où? C'est arrivé comment, ça?
Alors, cette idée vient d'une rencontre. Parce que c'est vrai que nous, au service culture scientifique, on faisait de la science, mais de la science pour les enfants, pour expliquer les méthodes de la science. C'était pas de la science qu'on publie dans les articles scientifiques, mais on enseignait la méthode scientifique, plus particulièrement de la classification, avec des peluches. Et on s'est rendu compte que ça marchait super bien en fait, et que ça marchait aussi avec les adultes, et que on passait vraiment des bons moments tout en expliquant des choses qui, dans la structuration de la pensée scientifique et tout ça, sont importantes, quoi. C'est-à-dire que de passer d'un tas de 25 peluches où chaque enfant a amené sa peluche à un tas de, enfin, à des peluches qui sont classées par critères qu'on a choisis tous ensemble et qu'on a définis, on a observé bien ce que ça donnait nos peluches et les peluches de notre voisin. Ben, en fait, on faisait de la science de classification des peluches. On a fait deux expos autour de la peluchologie, donc c'était on avait appelé ça une science avant que ça en soit une, et puis là on est content parce que c'est vraiment une science maintenant, en fait. Et de fil en aiguille, ça nous a amené à rencontrer pas mal de gens et à parler de notre projet qui grandissait, qui avait déjà un site participatif où on pouvait inventorier sa peluche et la mesurer, regarder un peu à quoi elle ressemble, etc., comme dans les sciences participatives, et qui fonctionnait plutôt bien. Et effectivement, j'ai croisé un des co-auteurs de ce papier, qui est Nicolas Mouquet, dans un contexte complètement informel, en fait, et je lui ai raconté ce que je faisais. Il m'a raconté ce qu'il faisait, c'est-à-dire que lui, il faisait noter, il travaillait à l'époque sur les poissons des récifs coralliens, avec Anne-Sophie Tribault, qui est aussi une co-autrice. Et il regardait, il faisait voter les gens pour faire une... En fait, être capable d'estimer l'esthétisme des poissons des récifs coralliens, et de regarder aussi s'il y avait un lien entre les services qui rendaient à l'écosystème et l'esthétisme, en fait. Donc, ils étaient sur l'esthétisme, nous, on était sur la peluche. On se retrouve, on commence à discuter, et quelques années après, paf, on a un papier scientifique ensemble. Donc ça, c'est une belle histoire.
Vous l'avez dit, vous l'avez évoqué tout de suite, la première peluche, donc c'était un ours en peluche. Vous vous intéressez un petit peu à cette histoire, ça naît quand les peluches, en fait? Est-ce que c'est dans un contexte particulier de reconnaissance de l'enfant, par exemple?
Alors les peluches, elles sont nées en 1902. Alors il y a une petite guéguerre entre la peluche allemande, et j'ai des sources qui m'ont dit que c'était vraiment la première peluche était allemande, en fait, en 1902, par une marque de peluche qui existe encore, qui s'appelle Steiff. Et il y a le fameux teddy bear américain qui est né vraiment pas loin, enfin à peu près dans la même année, quoi. Donc on ne sait pas trop qui a copié sur qui s'est inspiré de quoi, etc. Mais il y a eu un espèce de, à la fois en Allemagne et à la fois aux États-Unis, un boom extraordinaire de la vente de peluches, qui étaient des peluches qui ressemblaient pas complètement aux ours d'aujourd'hui, en fait, d'ailleurs. Mais et c'était un ours, voilà. Donc après, si vous voulez un peu plus loin, moi je vous encourage à lire. Le livre L'ours, histoire d'un roi déchu Oh, je m'en rappelle plus.
C'est pas grave, on retrouve, on le mettra sur la page.
De Michel Pastoureau, excusez-moi, okay. Michel Pastoureau, je suis désolé. Ça explique que, en fait, l'ours était un peu le roi des animaux avant que l'Église catholique essaye de le détrôner au profit du lion. Parce que le lion est captif, il vient d'Afrique, etc. Alors que l'ours, il était dans toutes les forêts ici. Et on met à peu près 1000 ans à supprimer la dimension symbolique de l'ours, et puis paf, il revient dans la chambre des enfants. C'est quand même pas mal, quoi.
Et c'est propre à l'Occident, cet ours en peluche, ou ça se retrouve maintenant partout?
Il y avait une fois, on avait fait... Alors, l'ours en lui-même, en fait, il y a beaucoup plus d'ours dans les pays où il y a des ours. Et effectivement, après, il y a une dimension de, il y a des sociétés et des religions qui sont pas trop sur la question d'avoir des jouets qui ressemblent à des animaux, etc. Donc, ça peut être une question dans certains endroits. Mais après, il y a des peluches au Maghreb, quand même. C'est pas des ours, quoi. Enfin, souvent, c'est pas des ours. C'est plutôt des chameaux. Oui, il y a un truc. Après, les jouets qui ressemblent à des animaux, il y en a un peu partout sur la planète, en fait, aussi, quand même. Hein. Les Inuits, ils en ont, etc. Mais l'ours en peluche, c'est quand même un truc bien occidental, ouais.
Alors justement, dans votre étude, vous êtes intéressé aux caractéristiques multisensorielles qui sont prises en compte lors de l'attribution du pouvoir réconfortant de la peluche. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes des caractéristiques physiques des doudous auxquelles vous êtes intéressé?
En fait, oui, le défi, ça a été de se dire qu'est-ce qui rend un ours en peluche réconfortant. Donc on a pris des ours en peluche, on a regardé, puis on a discuté autour d'une table pour se dire quels sont les critères morphologiques, quels sont les critères affectifs, et on a regardé un peu tout ce qu'on peut mesurer sur un ours. Alors le challenge, c'était que, vu que c'était une expérience participative, c'est que il fallait pas que ce soit une manip qui soit faite en laboratoire, quoi. Par exemple, la douceur d'une peluche, et je vous garantis qu'on s'est bien pris la tête avec Anne-Sophie là-dessus, pour se dire est-ce que en fait la longueur du poil et la douceur du poil étaient des choses qui étaient parallèles, en fait. C'est-à-dire qu'est-ce que si on mesure la longueur du poil, on mesure la douceur du poil. Et on en est arrivé à se dire que sans mettre des appareils un peu compliqués ou un peu difficiles à, voilà. Donc, on a inventé ça. C'est effectivement, c'est ce que vous avez devant les yeux. C'est une échelle de douceur. Donc, on a pris les peluches qu'on avait dans nos stocks, les vieilles peluches, là, qu'on récupère à Emmaüs et tout. Et on a fait une échelle de taille de poils et on a fait une approximation pour dire, ben.
Vous les avez découpées, hein. Je t'écris. Vous avez disséqué
des peluches. C'est ça.
Et on a des petits carrés qui nous permettent de les toucher pour vérifier lesquels nous
sont. C'est ça. On a fait une échelle de longueur de poils de peluche. Et comme ça, quand on inventerait une peluche, parce qu'en fait, c'est ça la question, c'est si on dit à quelqu'un, est-ce que cette peluche est douce? Je veux dire, ça va en fonction de qui on est, de l'approximation, ou si on aime cette peluche, on va avoir un biais complètement faussé. Donc là, avec une échelle, il y a 7 patchs ou 8 patchs de tailles différentes, on est capable de mettre un chiffre et de dire, ben voilà, la douceur entre 1 et 8 de cette peluche, c'est tant. Et on avait besoin, en fait, de calculer des outils hyper simples et qui soient capables d'être utilisés par tout le monde pour être capable d'avoir des résultats qui veuillent dire quelque chose, en fait.
Vous avez construit une mire aussi, si je me souviens bien, c'est ça, pour les
et
couleurs.
Oui, ouais. On a fait une mire et c'est là qu'on s'est rendu compte, justement, on a travaillé avec le master couleur de l'Université de Montpellier pour se rendre compte qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, mais si vous faites deux impressions de la même feuille sur votre imprimante, ce n'est pas les mêmes couleurs. Et donc, on a fait faire à un photographe un tirage sur le papier mat pour qu'il n'y ait pas de reflets et pour être sûr que tous les éclairages des 13 villes en France où on faisait la manip.
Oui, parce qu'on va y venir justement à la manip. Donc, vous l'avez fait dans un contexte particulier pendant la nuit des chercheurs en 2019, c'est
absolument,
bien ça.
Vous
pouvez nous raconter ce que vous avez demandé aux gens alors?
Et alors, déjà, la nuit des chercheurs, effectivement, sans la nuit des chercheurs, il n'y aurait peut-être pas ce papier aujourd'hui parce qu'ils nous ont fait confiance sur cette question parce que ce n'est pas évident quand même de dire on va lancer une grande expérience participative dans 13 villes de France, pour déterminer quel est l'ours en peluche le plus réconfortant. Donc, voilà, ils nous ont fait confiance, ils nous ont donné des sous pour qu'on puisse faire ça. Et du coup, il fallait adapter les protocoles en 13 kits différents, en fait, et que tout soit déployable, qu'il y ait un protocole écrit pour que les médiateurs puissent s'en emparer et pour qu'on ait des données, effectivement, de la meilleure qualité possible, en fait. C'est ça l'idée.
Alors, vous êtes intéressé aussi, on l'a dit, aux caractéristiques olfactives et kinesthésiques. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est les caractéristiques kinesthésiques des ours en peluche?
Eh ben, kinesthésique, par exemple, on a vu le toucher. Ça en fait complètement partie, en fait. Il y a aussi le fait d'avoir un ours, un grand nounours énorme, à qui on peut faire un énorme câlin, en fait. Eh ben, on va pas avoir le même rapport qu'un tout petit nounours minuscule, en fait. Ça veut pas dire que les petits nounours réconfortent moins que les grands. Ça dépend des gens, en fait. Mais c'est plus facile de faire un câlin quand on peut bien l'attraper, bien le prendre en main, etc. Donc c'est un peu toutes ces choses-là, et olfactif, bien entendu. Alors je suis sûr que tous ceux qui ont croisé des enfants qui ne voulaient pas laver leur doudou ont compris ce que c'était l'attachement olfactif à un doudou, en fait.
Oui. Et alors comment, pour revenir sur la méthode, donc justement, vous proposiez différents nounours aux gens qui venaient à cette nuit des chercheurs et vous leur demandiez de les comparer, par exemple?
Alors, dans l'idéal, non. Dans l'idéal, on vient avec son nounours. Et c'est ça la commande qui était faite, parce que justement on voulait aussi étudier les questions de l'attachement, etc. Et ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues. C'est-à-dire que quand on vient avec son doudou préféré ou quand on vous donne un nounours que vous n'avez pas forcément choisi, il se passe pas la même chose, en fait. Donc l'idée, c'est d'avoir un maximum les gens qui viennent avec leur propre nounours. Et ça, c'est à peu près la moitié des gens qu'on a sélectionnés qui sont venus pour ça. Et effectivement, on devait calculer ce biais aussi, quoi. La question, c'était de savoir, de comparer mon attachement à mon nounours que je préfère, que j'aime, et à un nounours qu'on m'a prêté ou qui est celui du voisin.
Et on devait... Comment vous avez fait pour l'objectiver? Ça paraît pas complètement évident de dire comment on fait.
C'était intégré dans le protocole. C'est-à-dire que on évaluait son nounours qu'on aimait très fort. Peut-être on va parler après, mais il y avait une dimension morphologique et une dimension affective, en fait. Et pour contrebalancer ça, on faisait le test à deux, et après on changeait avec le nounours du voisin, qu'on ne connaissait pas forcément, en fait, ni le voisin ni le nounours d'ailleurs. et on réévaluait justement notre attachement par rapport au nounours du voisin, pour arriver à avoir des notes qui nous montrent en quoi mon nounours que j'aime très fort marque beaucoup plus de points que le nounours du voisin, en fait.
Et ça vous permet d'évaluer son pouvoir réconfortant au nounours, c'est ça que vous avez classifié?
Alors, le pouvoir réconfortant, c'est effectivement... alors, là, on est obligé d'aller dans la partie justement affective, en fait. C'est-à-dire que dans le kit qu'on a envoyé à toutes les personnes qui ont participé, on avait 8 nounours qui avaient été choisis. Donc ils ont tous reçu donc la mire, la petite échelle là, pour la douceur, et 8 nounours. Et en fait, on faisait des matchs entre son nounours à soi et chacun des 8 nounours. Et donc on devait dire, il y avait plusieurs questions qu'on posait, lequel on est le plus agréable à regarder, lequel est plus, on aimerait bien, enfin lequel nous réconforterait le mieux pour dormir, etc. Et on faisait des matchs.
Et est-ce que son nounours à soi gagne chaque match ?
Eh ben, il gagne beaucoup de matchs en général. Enfin, s'il est efficace, sinon il faut changer. mais c'est ça l'idée, effectivement. Et
Si on revient du coup sur je vous ai même pas demandé, donc sur les résultats, sur les caractéristiques, vous parlez-vous de déterminants spontanés. Alors qu'est-ce qui ressort ? Donc vous avez dit le gros nounours, les poils, c'est quoi ? C'est poils longs, poils courts,
La douceur des poils. Alors justement, on avait deux hypothèses avant, et c'est ça qui est intéressant de voir que quand on fait de la science, on ne trouve pas forcément ce qu'on cherche en fait. Hein. Mais on avait deux hypothèses de travail quand on s'était réunis autour de la table, autour des nounours et tout. Je sais pas si vous voyez les nounours d'aujourd'hui. Les peluches d'aujourd'hui, il y en a qui ont des très grands yeux et il y a un phénomène qui est assez connu qui est le fait que quand un animal, enfin un objet qui représente un animal a plutôt une grosse tête et des grands yeux qui le rend un peu juvénile en fait, un peu comme un enfant, ça le rend attachant. Et ça, si vous regardez l'évolution de Mickey Mouse, vous vous en rendez compte entre le début où Mickey Mouse a été créé et la fin. Eh ben, il est beaucoup plus rond, il a le museau beaucoup plus fin. Ben, pour les ours, on avait un peu la même théorie, de se dire que potentiellement, ça risquait de fonctionner. Et on avait un autre questionnement autour du sourire. C'est-à-dire qu'il y a des nounours qui sourient et il y a des nounours qui ne sourient pas. Vous pouvez regarder chez vous, en fait, bien entendu. Et on avait l'hypothèse de dire qu'un nounours qui sourit pouvait potentiellement être plus réconfortant, en fait. Et on s'est rendu compte que pas du tout.
Au contraire, il est triste.
Non, c'est pas ça. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas du tout dans les échantillons qui ont été récoltés par rapport aux nounours qui ont été. Et effectivement, quand on a regardé de plus près les nounours qui ont été inventoriés, qui avaient des sourires, il y en avait qui avaient des sourires plutôt flippants, en fait. Donc peut-être que ça a biaisé les choses comme ça. Mais en fait, c'est ça, la science, c'est jamais fini. Hein, et ça dépend de l'échantillon et de ce que les gens ont dit, etc.
Mais justement, dans votre échantillon, les participants, on l'a dit, ils avaient entre 3 et 72 ans. Oui. Est-ce que ça veut dire que le réconfort, le pouvoir réconfortant de la pluche, il s'estompe pas avec le temps ?
Ah oui, oui. Bah, ça, c'est une des choses qui a été montrée, effectivement, que ça fonctionne très bien sur les adultes. Je sais que j'avais regardé les statistiques là, mais il y a 50% c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, donc il y a 50% des adultes qui ont encore leur doudou de quand ils étaient petits. Je sais pas si c'est votre cas en fait. On gardera le mystère. Et il y en a 40% qui dorment avec un doudou en fait.
Est-ce que c'est le cas ?
Ouais. Non, c'est pas le cas.
Ouais, c'est ça. Mais 40%, c'est pas une étude, c'est une autre étude qui a été faite, mais c'est juste incroyablement élevé.
Est-ce que c'est les mêmes ? Est-ce que ceux qui dorment avec leur doudou, ils dorment avec leur doudou d'enfance, ou est-ce que adultes, on peut aller s'acheter un doudou et dormir ?
Alors ça, je ne sais pas, mais je sais que, enfin voilà, en gros, c'est quelque chose qui est quand même assez répandu, quoi.
Un autre point intéressant que vous avez soulevé, c'est que le doudou n'est pas un jouet genré.
Oui, tout à fait. Donc ça, il y a pas que nous qui avons montré ça, hein, mais on s'est rendu compte que, enfin, on sait bien que concrètement, il y a pas de, enfin, ça marche autant avec les, enfin, il y a pas de normes sociales sur le doudou, sur la peluche, etc. quoi. Et peut-être, enfin, je sais même pas si on peut dire qu'il y a une influence sur le type d'espèces qui sont représentées ou qui sont, mais effectivement, c'est très répandu dans la petite enfance. Ben voilà, ça marche pour tout le monde. Et puis, il y en a plein. Ils vont pas à la crèche sans le doudou. Hein. On est au courant. Hein.
Oui, il n'y avait pas de doudou de fille et de doudou de garçon en fonction de la couleur. Vous n'avez pas vu de différence ?
Alors, nous, on n'a pas vu ça. Après, je pense qu'il y a quand même un peu... Enfin, ça peut exister quand même dans les choix, etc. quoi. Mais dans les magasins, ça existe. Mais c'est peut-être le moins genré des jouets d'aujourd'hui, en fait.
Et du coup, vous évoquez aussi le fait que ce centre de recherche, il pourrait permettre d'étudier le fonctionnement psychologique des individus grâce aux ours en peluche. Est-ce qu'il y a d'autres études qui avaient déjà été menées sur ce thème ou c'est la première ?
Ah ben nous, on a vraiment regardé. En fait, ce qu'on a fait, c'est une base de données de nounours en fait, avec les mesures, etc., dans tous les sens, qui permettent de savoir qui. Enfin, une fois qu'on sait qu'il y en a un qui est réconfortant, on peut savoir pourquoi. Parce qu'on a les mesures, les photos, etc. et toutes ces choses-là. On n'est pas allé dans des tests psychologiques plus que est-ce que j'aime celui-là, est-ce que celui-là me réconforterait quand je dors, etc. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui font ça tout ce qui est stress post-traumatique, etc. Effectivement, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne et il y a plein de pistes, effectivement, parce que dans les zones de guerre, on est bien, voilà, c'est un peu d'actualité malheureusement, mais on sait que c'est des choses qui sont données et qui peuvent rapporter du réconfort. Ça fait pas tout, mais ça peut aider beaucoup, en fait.
Eh ben merci beaucoup Thierry Brassac, c'était parfait, super intéressant. Donc la peluchologie, je suis sûre que personne ne connaissait. Merci beaucoup et à bientôt pour la suite des travaux. Vous continuez, c'est ça?
Ah ouais, il y a un autre papier en chantier.
Il y a un autre papier en chantier, super. Eh ben on vous recevra pour en parler. Et donc on passe maintenant à notre séquence reportage. Je vous emmène sur le campus Saint-Priest au nord de Montpellier. Là-bas, c'est au Centre Spatial Universitaire de Montpellier que m'attendait Pablo Boisseau pour nous faire découvrir le FlatSat.
Je m'appelle Pablo Boisseau, je travaille au Centre Spatial Universitaire, je suis ingénieur logiciel embarqué.
Alors peut-être juste pour les auditeurs, est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur le type de satellite que vous fabriquez ici? Donc c'est des nanosats, c'est ça?
Donc au Centre Spatial Universitaire, on travaille avec des CubeSats, donc c'est un ou plusieurs cubes de 10 cm de côté. C'est un format standard qui est utilisé et qu'on va mettre à l'intérieur des lanceurs. À l'intérieur, on fait un petit peu ce qu'on veut et au CSU, on fait des choses un petit peu faites nous-mêmes. Pendant le développement, au début, on va avoir envie d'isoler les différentes parties du satellite. Donc on va scinder le satellite en deux parties principales, la mécanique et thermique, et la partie logicielle et communication. Et donc on va avoir deux modèles de test. Et le premier, c'est le modèle structurel et mécanique et thermique. Et l'autre modèle, c'est le satellite à plat, le FlatSat. Et une fois que ces deux modèles sont prêts, on va pouvoir les fusionner en un seul, qui est le modèle d'ingénierie, qui va être une réplique exacte du satellite qu'on va envoyer ensuite.
Qu'est-ce qu'il y a devant nous là? C'est un FlatSat, c'est ça hein?
C'est un FlatSat, satellite à plat, parce qu'on met tous les éléments étalés sur la table. En fait, on a pris toutes les cartes électroniques qui sont à l'intérieur du satellite et on les a étalées sur une table. On les a fixées à un support, bien sûr. Et ensuite, on les a connectées entre elles et ce sont exactement les mêmes connexions que dans le satellite. Donc là, on a un voltmètre, on a une alimentation, on a aussi une batterie, donc on alterne selon les tests. Et ensuite, on a tous les câbles qui servent à interagir avec le satellite, donc c'est pour se connecter sur le buscan. Et l'autre manière d'interagir avec le satellite, c'est par le système de communication. Donc là, on a l'antenne et on se branche avec un ordinateur qui a lui aussi une antenne. Et on peut faire comme si on était la station sol communiquer et envoyer des télécommandes. Et l'objectif, c'est de valider les interfaces donc électroniques et logicielles entre les différents sous-systèmes.
Effectivement, on a des circuits. Alors, est-ce que tu peux justement me dire là ce qu'on va faire?
On a préalablement testé les cartes toutes seules. Donc, on vérifie qu'elles fonctionnent, que le comportement est attendu. Mais ensuite, il y a l'étape de l'intégration. Donc, on va prendre plusieurs éléments et les mettre ensemble. Et bien évidemment, ça ne va pas marcher.
Pourquoi bien évidemment?
Ça marche jamais quand on teste quelque chose la première fois. On va les mettre ensemble et on va essayer de travailler dessus pour améliorer la communication et le fonctionnement.
Combien de temps ça te prend de tester justement tout ça?
Ça dépend des tests, mais ça peut être plusieurs jours. Quand on est dans des phases de test et de validation, on va rester plusieurs jours et on va suivre des procédures. On crée des actions, donc on essaie de planifier la suite du programme.
C'est quoi que tu appelles la procédure?
On écrit une recette de cuisine avec des instructions simples à suivre. On vérifie que la température de tel ou tel composant va être dans la gamme attendue. Ou on va vérifier que telle partie du satellite est allumée ou éteinte. On va vérifier tout ça, que c'est le comportement attendu par rapport au design.
Une carte comme ça, c'est énormément de travail, non?
Oui, surtout qu'on fait tout ici au CSU. On a fait toute la R&D et ensuite on est en train d'essayer d'enchaîner, d'améliorer le processus autour.
Plusieurs fois tu as utilisé le mot bricoler et là on a vraiment l'impression d'être dans c'est un atelier.
On est dans l'atelier, donc là c'est l'endroit où on bricole. Il n'y a rien dans les cartes qu'on voit ici qui va être envoyé dans l'espace. C'est vraiment toute l'étape préparation et développement.
Une fois que le satellite il est monté, on ne peut plus faire ça en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus le faire après?
Parce que quand on a envie d'accéder à un signal ou de changer un composant à l'intérieur d'une carte, ou quand on est en train d'essayer de résoudre un problème, démonter un satellite, ça peut prendre du temps et ça va aussi invalider une partie des tests qu'on aura déjà fait. Ce genre d'environnement, le FlatSat, permet de reproduire le problème pour l'identifier et l'analyser avant de le régler sur un modèle de vol. Le modèle de vol, c'est vraiment quelque chose, c'est un bijou, on essaie d'y toucher le moins possible.
Et il est temps maintenant d'accueillir notre invité de dernière minute. J'accueille cette semaine Eric Servat, directeur du Centre UNESCO sur l'eau ICERI World, pour nous parler du hackathon. Bonjour Eric Servat.
Bonjour.
Alors donc, le Centre UNESCO sur l'eau ICERI World que vous dirigez organise jeudi et vendredi le Water for Future Hackathon, toujours un merveilleux accent. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ?
Oui, bien sûr. Donc c'est une compétition finalement entre étudiants du monde entier. Alors du monde entier, pas tout à fait, parce qu'on a que trois continents qui participent, mais c'est plus que l'année dernière déjà, puisqu'on n'en avait que deux. Voilà, ce sont
c'est une cinquième édition, c'est bien ça ?
C'est une cinquième édition, et on a démarré à 80, et cette année, on aura 420 étudiants.
D'accord. Ouais.
Voilà, pour vous dire combien les choses se sont développées en peu de temps, finalement. Et donc, tous ces étudiants vont être répartis en équipes de 5 à 7 étudiants. Et ils ont une thématique qui leur a été dévoilée hier, qui est la thématique de eau et ville durable. Et donc, à partir de là, et bien, il faut qu'ils intègrent ce sujet et puis qu'ils identifient les défis qui correspondent à ce sujet-là et qu'en 48 heures, ils essayent de nous proposer des solutions pour relever ces défis qui se posent donc sur le sujet eau et ville durable.
Alors, vous l'avez dit, plus de 400 étudiants et étudiantes, j'imagine qu'ils sont pas tous à Montpellier s'ils sont issus de trois continents. Comment ça se passe concrètement ?
Alors, effectivement, ils sont pas tous à Montpellier, hein, parce que 420 étudiants, en fait, ça représente 42 universités, écoles d'ingénieurs et formations diverses dans le monde, hein, c'est-à-dire en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord, puisque cette année, le Québec nous a rejoints. Et donc, les Montpelliérains seront à Montpellier en présentiel au FDI Stadium, qui nous accueille pour la deuxième année consécutive. Et les autres sont dans leurs universités, dans leurs écoles, et ils sont connectés. Donc, on a toutes les autres équipes, c'est-à-dire on a une soixantaine d'équipes au total qui est connectée en visio et qui donc, à intervalles réguliers, revient dans le jeu avec les différentes avancées qu'elle a pu avoir. Et puis on a des points fixes. Par exemple, en fin de première journée, il y a ce qu'on appelle le pré-jury, dans lequel finalement chaque équipe va en très peu de temps faire une espèce de pitch court pour dire là où elle en est. Et toutes les autres équipes vont regarder, écouter, poser des questions, et donc c'est un grand moment d'interaction, d'échange entre les étudiants, et ça c'est aussi ce qu'on veut comme valeur dans le cadre de cet hackathon.
48 heures, c'est très court, et si en plus ils sont tous aux quatre coins du monde, comment ça se passe ? Ils dorment pas, ils restent pendant 48 heures actifs ?
Alors, ils peuvent rester 48 heures actifs, alors on en a effectivement quelques-uns qui restent 48 heures actifs, notamment on voit souvent dans les équipes ceux qui sont les développeurs de code informatique faire des heures supplémentaires la nuit pour résoudre les bugs qu'il peut y avoir sur le code qu'ils développent. Mais sans ça, oui, ils sont très actifs. Ça commence à 9h, le coup d'envoi est donné donc demain matin, jeudi à 9h. Et puis ils seront tous là au moins jusqu'à 23h non-stop. Et on reprend le lendemain dès 8h et ils ont 10 heures de travail devant eux encore avant qu'on attaque les finales.
Donc tout ça prend la forme d'une compétition, il y aura une demi-finale, une finale. Après quoi ils courent en fait ces étudiants, la reconnaissance, qu'est-ce que c'est au final, au bout ?
Alors je crois qu'il y a plusieurs choses, en tout cas l'expérience nous montre qu'il y a plusieurs choses. D'abord il y a ce côté je participe à l'hackathon, j'appartiens à une communauté internationale d'étudiants qui sont soucieux, de par leur formation, leur cursus, leur centre d'intérêt, d'essayer de réfléchir et de trouver des solutions et de les partager. Et ça, c'est vraiment une valeur importante dans le cadre de cet hackathon. Et puis ensuite, il y a un petit challenge finalement entre les universités et les formations. Et chacun est là, et on l'a bien vu. À un moment, on avait imaginé de faire des équipes qui soient des équipes mixtes entre plusieurs universités, etc. Et puis finalement, c'est pas ce qui convient. On se rend compte de ce que les étudiants sont là avec le drapeau de leur formation et qui sont très attachés à porter haut les couleurs de leur formation, de leur université. Et donc, il y a ce côté compétition. Et pour les, pour les premiers, donc ceux qui arriveront premiers à l'issue de cet exercice, eh bien, s'ils le souhaitent, ils peuvent être accompagnés par certains de nos partenaires. Je pense en particulier au Business Innovation Center ou bien à la région qui nous propose, s'ils le souhaitent, de les accompagner dans une espèce de phase de maturation de leur projet. Ce sont des choses qu'on peut envisager.
Alors très rapidement, pour terminer, le temps passe vite, vous avez un invité de marque qui sera là justement pour cette demi-finale. Vous pouvez nous en dire un mot, c'est Eric Orsena, c'est bien ça?
Absolument. Eric Orsena, dont vous savez que, notamment, il vient de sortir un bouquin qui s'appelle « La terre a soif ». Donc, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la question de l'eau. Il est aussi président d'une association qui s'appelle « Initiative pour l'avenir des grands fleuves ». Donc, cette thématique-là, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. L'année dernière, il avait été notre président d'honneur de l'hackathon que nous organisons pour les lycéens. Et quand je lui ai expliqué que là, on refaisait quelque chose comme on le fait chaque année pour les étudiants et que ça prenait une dimension absolument dingue avec vraiment cette ouverture internationale, eh bien, Eric Orsena nous a fait l'amitié de bousculer un peu son agenda. Et il sera là vendredi après-midi avec nous pour participer et pour se rendre compte de la mobilisation de tous ces étudiants.
Et on suivra nous aussi les résultats. Merci beaucoup Eric Servin, à bientôt.
Avec plaisir, au revoir.
Merci, au revoir. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmeton pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.